Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. Le président Félix Tshisekedi a chargé le Conseil supérieur de la magistrature et le gouvernement à définir les canaux pour recruter les magistrats civils et militaires ainsi que les conseillers référendaires. Le chef de l'État a abordé cette question lors du Conseil des ministres du vendredi 21 janvier 2022, au cours duquel il a fait part de l'insuffisance des magistrats à couvrir les offices des parquets et juridictions à travers le pays et à résorber le besoin du peuple à la quête de la justice, qui est l'une des raisons de la faible administration de celle-ci et de l'instauration de l'État des droits. Quels sont, selon vous, les préalables nécessaires pour un bon recrutement des magistrats, comme souhaité par le chef de l'État? 081-890-4969 sur le numéro d'appel pour intervenir en direct. Bob Landou assure la mise en onde et la réalisation de ce magazine que Pierrot et la Mégie, j'ai le réel plaisir de vous présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous, à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et pour en parler, nous avons dans ce studio Maître Georges Kapiamba. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Alors, avant peut-être de parler de ce que le chef de l'État fait comme plaidoyer, comment d'abord expliquez-vous le fait qu'on ait carence des magistrats?
Alors, il y a carence des magistrats, ça c'est un problème lié à la planification. La planification de nos autorités, du gouvernement. Vous vous rappelez que à l'époque du ministre Luzolo Bambi, il y avait eu recrutement de plus ou moins 3000 magistrats. Et par la suite, 2000 avaient été retenus. Mais sur les 2000, il y avait eu tout simplement, je crois, si je ne me trompe pas, 1000 qui avaient été engagés. Admis au stade de substitut des procureurs parce qu'ils avaient passé tous les concours. Il y a eu un nombre qui est resté aujourd'hui qu'on a considéré comme la réserve. On avait promis à ces hommes et ces femmes qu'ils allaient être engagés l'année prochaine. Mais depuis lors, ils sont toujours sur la touche. Ils savent pas ce qu'ils vont devenir. Personne ne leur donne une quelconque explication.
Est-ce que c'est une question de moyens ou c'est une question de volonté?
Alors, il y a deux choses. Les moyens, quand on veut réaliser un objectif, on doit se donner des moyens. Et donc, moi, je pense que il faut parler principalement d'absence de volonté d'agir. Parce que quand on parle de volonté politique, c'est trop vague, c'est ambigu. C'est l'absence totale de volonté d'agir. Et la responsabilité en ce qui nous concerne, la CAGE, après autant d'années d'analyse, vous savez, nous faisons une surveillance assez active sur le fonctionnement principalement des institutions judiciaires. Nous avons constaté qu'il n'y a pas eu assez d'efforts fournis, des plaidoyers même du côté du Conseil supérieur de la magistrature pour arriver à faire prendre la décision au gouvernement d'engager d'autres magistrats. Ils disent que si on engage, il n'y a pas d'infrastructure. Mais pour avoir ces données des infrastructures, il faut travailler, il faut élaborer au moins un programme, il faut discuter avec les gouvernements. Ils ont des cadres de discussion, mais que le Conseil supérieur de la magistrature n'exploite pas. Et ça, je leur dis presque tous les jours. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire les membres du bureau, passent tout leur temps à traiter principalement des dossiers à caractère administratif. Ils sont, on dirait, plus préoccupés par leur maintien dans leur poste. Ils ne voient pas ce que doit devenir la magistrature, les pouvoirs judiciaires et les rôles à la fois judiciaires, sociaux, économiques, que les magistrats doivent jouer et aussi évaluer les actes ou l'action de la justice, du pouvoir judiciaire, par rapport aux différentes critiques qui sont formulées contre ce pouvoir.
Alors, le président fait un plaidoyer, il souhaite qu'on arrive vraiment à recruter. Avant d'aborder la question du recrutement, revenons d'abord dans le fait. Est-ce que le problème que nous avons, c'est un problème de recrutement, qu'on en a eu beaucoup, ou un problème aujourd'hui, parce que même ceux qui sont là déjà, qui travaillent, nous avons des plaintes.
Voilà.
Quel va être vraiment le vrai problème? C'est de recruter. C'est de recruter et d'encadrer, c'est de réformer la mentalité de ceux qui travaillent. Comment vous pouvez définir en fait la réponse à cette problématique?
Voilà pour la CAGE. Tout en respectant la volonté du président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, sûrement qui s'est basé sur plusieurs plaintes qu'il a reçues lors de sa tournée dans l'espace Grand Kassai, où il a été constaté qu'il y a plusieurs zones entières qui sont sans présence de la justice ou des représentants du pouvoir judiciaire, il a pensé immédiatement qu'il faut recruter pour combler ces vides. C'est une bonne chose, mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut commencer par un nouveau recrutement ou il faut arriver à opérationnaliser, à donner plus de moyens, à veiller sur la discipline de ceux qui sont là? Je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Il faut commencer par remplir l'obligation constitutionnelle qui impose au gouvernement d'allouer un budget au pouvoir judiciaire. Ça ne se fait pas, même pour les budgets de l'exercice 2022. Quand j'ai posé des questions aux membres de l'ECOFIN, on m'a dit qu'il serait réservé plus ou moins 0,4% du budget au pouvoir judiciaire. Et qui a décidé? Ce sont les parlementaires qui ont décidé. Ils disent que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas correctement accompli son rôle, notamment dans la présentation de son dossier, mais aussi dans la défense des crédits qu'ils étaient en train de solliciter du gouvernement. Il y a un problème à ce niveau-là. Est-ce que le Conseil recourt-il à une expertise pouvant lui permettre de présenter un budget convaincant, déjà au niveau du gouvernement et par la suite au niveau du Parlement? Est-ce qu'ils envoient des experts, méticulés, des gens spécialisés dans les lobbying, dans la discussion, pour arriver à convaincre les parlementaires sur la nécessité de consacrer carrément cette autonomie financière? Parce que c'est imposé par la Constitution. Deuxième chose, s'il n'y a pas ces billets pour les pouvoirs judiciaires, ça veut dire que on donne pas de moyens de fonctionnement au pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire ne pourra jamais investir dans les infrastructures pour accueillir les magistrats. Donc le peu qu'il y a là, parce que selon les informations en notre possession, contrairement à tout ce qui était présenté toutes ces années, il serait aux alentours de 2200 pour toute la République. Mais si déjà on ne sait pas prendre en charge correctement les plus ou moins 2200, qu'adviendrait-il si on ajoutait et qu'on atteignait par exemple 3000? Ça va toujours susciter des problèmes parce qu'on est incapable de leur donner des moyens de fonctionnement, améliorer leur rémunération, mais surtout veiller à ce que le Conseil supérieur de la magistrature accomplisse sa mission de la sanction contre des magistrats indélicats. Ça se fait pas. Je peux vous donner un petit chiffre, selon nos statistiques. À ce jour, sur plus ou moins 230 dossiers qui étaient ouverts au niveau de Kinshasa, il n'y a eu qu'une dizaine de décisions qui ont été rendues. Vous vous imaginez? Mais c'est un résultat insignifiant. On sait ne fût-ce que faire l'évaluation et constater que l'action n'établit pas la performance, ne fût-ce que dans les chefs du Conseil supérieur par rapport à la gestion des magistrats sur le plan de leur discipline. Et leur dire, chères dames, chers messieurs, vous n'arrivez pas à accomplir vos missions conformément à la loi. Parce que comment sur plus de 200 dossiers, vous pouvez ne fût-ce qu'avoir que une dizaine, donc moins de 10%. sans nommer ou parler des autres dossiers qui sont des dénonciations qui sont déposées contre des magistrats à travers les provinces. Donc si on met ensemble, sûrement qu'on est au-delà des 1000.
Alors ça on a posé les diagnostics, hein, les préalables, mais alors nous allons tout à l'heure, après avoir écouté le premier groupe d'auditeurs, nous allons revenir maintenant sur les plaidoyers du chef de l'État et les préalables nécessaires si on doit recruter, parce que le besoin s'est fait sentir, vous l'avez dit, il faut accompagner ceux qui existent déjà.
Voilà.
Mais pour ceux qui vont être recrutés, alors comment doit-on le faire, parce qu'on sait qu'il y a eu lors de derniers recrutements, après on a vu aussi le gouvernement dire diligenter une enquête et se rendre compte que beaucoup de gens ont été recrutés sans suivre la procédure, qu'il y avait même qui étaient des noms.
Ouais, défectifs.
Voilà, défectifs, tout ça. Et ça, cette question, nous allons revenir là-dessus. Écoutons d'abord trois auditeurs qui sont avec nous en ligne. Alidor, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission. Bonjour Alidor. Voilà, Alidor un peu distrait sur sa ligne. En attendant qu'on retrouve Alidor, nous avons Jean-Claude qui nous appelle de Lubumbashi. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour, bonjour fidèle auditeur, bonjour à la Radio Kapi.
On vous écoute, Jean-Claude.
Oui, bon, nous avions eu à émettre notre avis concernant le recrutement des magistrats. On a salué la décision prise par le chef de l'État, comme c'est bien lui qui est le garant de la nation. Alors, pour bien le faire, il serait mieux que l'on commence d'abord par identifier, évaluer, savoir combien on a comme magistrats dans ce pays, combien ils sont dans des cas d'invalidité ou soit d'autres qui se trouvent dans des maladies professionnelles, qui doivent être retraités ou soit qui doivent être placés dans des centres médicaux, et puis savoir encore améliorer les conditions de vie des magistrats qu'on a pour le moment, et puis privilégier surtout les jeunes qui viennent et faire à ce que ces gens-là ne puissent pas avoir des esprits que l'on a eu à remarquer qu'il y a des magistrats qui se trouvent au sein des partis politiques comme étant des membres, ce qui fait à ce que leurs décisions qui doivent être rendues ou soit qu'ils rendent souvent soient des décisions là taillées sur mesure. C'est dans le sens là que nous avions trouvé à mettre notre point de vue, de dire qu'il faut nécessairement commencer par améliorer les conditions de vie et organiser des formations pour la relève de leurs connaissances dans sa dans
merci
ce
merci beaucoup Jean-Claude, vous avez salué ces souhaits exprimés, mais vous estimez aussi qu'il faudra faire un point d'une manière globale, hein, savoir qui sont éligibles à la retraite, qui sont peut-être qui ne prestent pas, et améliorer les conditions et procéder maintenant au recrutement en insistant sur le militantisme politique, hein, vous l'avez dit, hein, et puis aussi qu'on ait le système de formation de ceux qui travaillent déjà. Merci beaucoup Jean-Claude. Je pense que Alidor, c'est bon, il est avec nous à Kananga. Alidor, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à l'invité ainsi qu'aux auditeurs de la Radio Kapi.
Et vous aviez mis un point de vue sur notre page Facebook, hein, sur les préalables pour vous avant le recrutement de nouveaux magistrats.
Oui Monsieur Pierrot, l'annonce du recrutement des magistrats tombe à point nommé et c'est une mesure salutaire dans la mesure où la carence est criante aussi bien dans la magistrature civile que dans la magistrature militaire. Mais ce que nous avons toujours craint Monsieur Pierrot, c'est que le moment de recrutement de magistrats, beaucoup de préalables ne sont pas pris en compte. D'abord, les sites de recrutement. Par le passé, on ne prenait que trois sites, sites de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani. Et cela causait du tort à beaucoup de candidats qui étaient au niveau de l'intérieur, qui avaient du mal à accéder à ces sites-là. Ce qui faisait que seulement les candidats qui étaient dans les grandes villes étaient privilégiés. Donc cette fois-ci, nous voulons qu'étant donné que le Conseil supérieur de la magistrature a des représentations dans chaque province, d'office que les chefs lieux de chaque province soient aussi un site de recrutement. Deuxième point, le clientélisme, le favoritisme, la corruption, le tribalisme, la concussion, qui ont toujours caractérisé le recrutement des magistrats dans notre pays. Nous voulons que déjà en amont qu'on puisse analyser ces aspects-là. Parce que pendant que l'offre de recrutement est lancée, vous verrez, soit c'est selon la géopolitique, soit c'est selon le finance de tel parti ou de tel candidat, ainsi de suite, ça fait que le recrutement de magistrats ne se passe pas dans de bonnes conditions. C'est comme ça que nous avons émis le vœu cette fois-ci que les chances soient accordées de la même manière à tous les candidats et que aussi on puisse éviter les antivaleurs qui ont toujours caractérisé les recrutements de magistrats, comme je venais de le dire, de sorte qu'on puisse avoir de bons magistrats qui puissent relever l'état des droits et pouvoir rendre une bonne justice à la nation congolaise. Nous avons aussi émis le vœu de voir le praticien de droit, parce que c'est déjà un atout, l'expérience qui est requise dans le chef de candidat, qu'aujourd'hui, là, ceux qui pratiquent déjà les droits doivent être privilégiés. Parce que comment expliquer que celui qui vient de quitter l'université aujourd'hui par rapport à celui qui a pratiqué les droits, il y a peut-être 5 ou plus de 5 ans, qui est avocat ou défenseur judiciaire. Donc ça doit aussi être un acquis, un atout pour lui qui soit privilégié. Donc c'est comme ça que nous avons voulu, M. Pierrot, que cette fois-ci, avec le recrutement de magistrats...
Merci beaucoup, Alidor. Merci beaucoup, Alidor. Vous avez salué le vœu, mais vous souhaitez aussi qu'il y ait des sites presque dans chaque lieu de province, parce que l'autre fois, il n'y avait que 3 grandes villes seulement qui étaient privilégiées. Vous estimez qu'il faut lutter contre le clientélisme, la géopolitique, le rapprochement politique aussi, mais vous souhaitez qu'on recrute des praticiens. Il y a tout à l'heure notre ami Jean-Claude qui estimait qu'il fallait plus mettre l'accent sur les jeunes. Alors vous estimez qu'il faut plus des gens qui sont déjà dans la pratique des droits pour qu'ils puissent, ils peuvent être des bons candidats. Merci beaucoup. Alors Peter, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoint dans Parole aux auditeurs. Bonjour.
Bonjour Monsieur JR, merci à l'honorable qui l'invité qui est avec vous au studio.
Oui Peter, c'est Pierrot et nous avons Maître Georges Kapiamba avec nous au studio.
Vraiment, merci beaucoup Monsieur Pierrot. Je pense que le recrutement des nouveaux magistrats se tombe à point nommé parce qu'il y a un besoin qui se fait ressentir. Alors, étant donné qu'il y a un besoin, mais moi je voudrais argumenter en disant au-delà des préalables tels que vous l'avez pensé, au-delà des préalables structuraux fonctionnels, et également des préalables liés aux infrastructures telles que l'invité l'a souligné, je pense que pour arriver à ce que les prédécesseurs ont dit concernant la méritocratie, éviter le clientélisme, moi je pense que le bon recrutement doit passer d'abord par l'offre d'emploi. Lorsqu'on va lancer l'offre d'emploi, il y aura des critères, et c'est sur base des critères qu'on pourra savoir qui peut répondre nécessairement à ces critères. Après avoir lancé l'offre d'emploi, il y aura les candidats qui vont se manifester sur base des critères préalablement définis dans l'offre d'emploi. Et après le dépôt de candidature des candidats, maintenant on va faire un tri des dossiers. Parmi ceux qui vont postuler, on va trier parmi les meilleurs et ces derniers maintenant seront soumis à un test. Après le test maintenant, ils vont être soumis à l'entretien selon les procédures de recrutement et enfin à remplissage des administrations. Des formalités administratives. Et en ce qui concerne les magistratures, moi je voudrais penser à ce que, au-delà, après les 3 critères dont je venais d'énumérer, lancer l'offre d'emploi, les tests, le tri des dossiers et le test, les nouveaux magistrats doivent être soumis aussi à une formation. Bien que Alidor a évoqué la spécialité et l'ami de Lubumbashi a évoqué le rajeunissement des magistrats, mais moi, je pense que soumettre la formation à ceux qui seront recrutés, ça sera une bonne chose pour que même les nouveaux, même les anciens, ils doivent être maintenant s'adapter aux réalités de la fonction en question. Et je pense que l'invité aussi a évoqué la question de moyens, et ainsi de suite. Mais je pense que quand il y a eu un besoin, cela s'évalue en interne. Quand le besoin est évalué en interne, c'est-à-dire on doit disponibiliser même le moyen. On va engager 1000 personnes. Les 1000 personnes, on va les payer comment? Et là, maintenant, c'est à partir maintenant du gouvernement qu'on doit d'abord définir si nécessairement le gouvernement a des moyens pour payer ces agents qui seront recrutés afin de nous épargner de ce qui a eu la fois passée.
Oui, on sait qu'il y a eu, oui, Peter, on sait qu'il y a eu beaucoup de mouvements de grève aussi, depuis quelques années. Alors, vous estimez qu'il faut qu'on soit sûr qu'on a des moyens avant de pouvoir recruter de nouveaux magistrats. Mais pour vous estimez qu'il faut de la rigueur pour, n'est-ce pas, arriver à pouvoir les recruter. Merci beaucoup, Peter. Alors, on va écouter Célestin qui est à Lubumbashi, revenu dans ses studios pour que notre invité, Maître Georges Kapiamba, puisse commenter les points de vue de nos compatriotes. Célestin, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour JR, c'est Célestin, comme vous l'avez dit. C'est depuis le vendredi que nous avons salué l'initiative du chef de l'État de procéder au recrutement de nouveaux magistrats dans le secteur judiciaire. Mais le problème se pose. Vous savez, quand on parle de recrutement, il faut que le gouvernement mette en place des moyens conséquents. Des moyens conséquents pour procéder à un bon recrutement de magistrats. Il savait qu'avec l'avènement de la loi portant organisation et fonctionnement de juridiction de l'ordre judiciaire, il était prévu que, comme par exemple dans la ville de Lubumbashi, que dans chaque commune qui ait un tribunal de paix. Alors on constate que pour la ville de Lubumbashi, il n'y a qu'un tribunal de paix, le tribunal de paix de Lubumbashi. Alors il était arrivé comme la ville de Lubumbashi comptait au moins 7 communes. Alors il y a carence des magistrats, il y a insuffisance des magistrats. Alors il faut procéder à un bon recrutement de magistrats qui coûterait même 1 000, 3 000 magistrats pour combler des lacunes ou des vides dans chaque province. Alors le recrutement ne devrait pas se faire par clientélisme ou par connaissance. Nous savons bien que dans notre pays, c'est la corruption qui bat record dans tous les domaines et les connaissances. Nous pouvons parler aujourd'hui que le président de la République a lancé le recrutement. Mais dans les coins ou dans les coulisses, il y avait des gens qui ont déjà posé des connaissances, et ceci, c'est là. Vous verrez qu'au moment donné, ce sont des connaissances qui priment et la corruption. Vous vous rappelez qu'en 2010, nous avons vu des problèmes qui se sont posés, des gens qui avaient déjà délivré des $700, des $500, des $600. Alors, avec ce genre de système, nous ne voulons pas cette fois-ci que lorsque nous pourrons procéder au recrutement, qu'ils prennent partie et par connaissance et que la méritocratie prime. Et après avoir recruté, le Conseil supérieur de la magistrature devrait prévoir la clause de C. Et cette clause peut permettre à savoir est-ce que ce jeune est talentueux ou ce jeune maîtrise quelque chose ou la connaissance de soi. Parce que la clause de C prévoit qu'il y ait de l'expérimentation au sein du chef de celui qui est recruté. Alors s'il s'avère que celui-ci ne maîtrise pas rien, on peut le reclasser. Et la clause de C, moi j'estimerais que la clause de C peut être prévue même pour des ans, pour après si c'est mérite. Est-ce qu'il convient? Parce que vous savez bien que c'est la justice qui élève une nation. Alors si dans le chef des magistrats, il n'y a rien de bon, qu'est-ce qu'il rendra comme jugement? Qu'est-ce qu'il proposera vraiment?
Alors là, vous estimez, Céleste, vous estimez vraiment qu'on devra être regardant la rigueur dans les procédures des recrutements, mais vous revenez aussi, comme les autres compatriotes qui ont parlé des questions de moyens, parce qu'il ne suffit pas seulement de pouvoir recruter, mais il faut aussi mettre à la disposition de ces personnes le moyen pour qu'ils arrivent à travailler. Alors, je rappelle encore à nos auditeurs que nous débattons encore ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nous revenons sur l'appel du chef de l'État qui a chargé le Conseil supérieur de la magistrature et les gouvernements à définir les canaux pour recruter les magistrats civils et militaires ainsi que les conseillers référendaires. Nous en parlons avec Maître Georges Kapiamba qui est avec nous dans ce studio. Alors, vous pouvez intervenir au 081-890-49-69 pour intervenir, mais n'oubliez pas aussi de déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport à
ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de
vous. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
On n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Alors, nous revenons à vous, Maître Georges Kapiamba. Vous avez suivi les compatriotes. Vous avez noté ensemble avec moi leurs préoccupations.
Oui, globalement, j'ai noté que tout le monde est revenu sur la nécessité d'abord d'améliorer les conditions socio-professionnelles de magistrats qui sont là, qui se chiffreraient autour de 2200. D'améliorer tout ce qu'il y a comme la discipline de ces magistrats, parce qu'il faut combattre les antivaleurs qui ont élu domicile aujourd'hui au sein aussi du pouvoir judiciaire. Parce que, comme l'un de vos auditeurs l'a mentionné, il n'est pas possible aujourd'hui de mener, de porter les combats de lutte contre la corruption des antivaleurs sans une justice qui est efficace, qui elle-même est extirpée de ce genre, des germes d'antivaleurs. Et donc, il faut le faire, parce que ce qu'il faut éviter, c'est que qu'on procède rapidement à un recrutement. On a de nouveau des hommes et des femmes qui vont entrer dans un corps qui va tout de suite les entraîner aussi dans cet esprit de course vers l'enrichissement effréné. C'est ça, ou l'enrichissement illicite. Donc, si on ne commence pas par régler cette question, c'est-à-dire donner des moyens déjà à ceux qui sont là, moyens, ça veut dire il faut améliorer leur rémunération, donner les moyens, les frais de fonctionnement, il faut arriver à planifier la construction des palais de justice, des prisons. Aujourd'hui, le gouvernement a lancé le programme de développement de 145 territoires. Mais vous pouvez vous imaginer construire, développer un territoire qui n'a pas de tribunal de paix qui fonctionne, qui n'a pas de prison, où si le tribunal est là, mais sans magistrat, sans directeur de prison, ou si la prison est là, en état de délabrement très avancé, avec des cas d'évasion répétés. Non, à ce moment-là, on ne pourra pas développer les territoires. Voilà pourquoi moi je pense. Je pense que il faudrait que les cadres, ceux qui vont participer au cadre des concertations que le président de la République a demandé entre les gouvernements et les conseils supérieurs de la magistrature, que ces hommes et ces femmes puissent être conséquents dans l'analyse de l'état des lieux. Il faut qu'ils les fassent avec sincérité, responsabilité, qu'ils fassent un diagnostic qui va permettre d'abord de regarder ce qu'il y a sur le terrain, les problèmes majeurs qui se posent, et prendre des décisions qui vont permettre d'accompagner la mise en œuvre du programme des 145 territoires, mais en pensant que on ne peut pas développer un territoire s'il n'y a pas de justice. Et la justice, telle que prévue par la loi, c'est un tribunal de paix. Un tribunal de paix ne peut pas fonctionner sans parquet, ne peut pas fonctionner sans prison. Si dans le programme de développement de 145, cela n'est pas prévu, le budget n'est pas prévu pour cela, il faudrait qu'on s'entende carrément à un résultat mitigé par rapport à ces programmes.
Alors, maître, on revient sur la question de recrutement, les conditions du travail, mais on s'y rappellera que lors de son point de presse l'année passée à Goma, où le chef de l'État avait séjourné au micro de la RTNC et de la radio Top Congo, le chef de l'État s'était plaint du comportement des magistrats, et il a même ajouté, même ceux que j'ai nommés à peine arrivés. Alors, où se trouve le véritable problème? Est-ce que le problème, la base est biaisée à partir de quel niveau? Que même pendant 3 ans, avec toute la volonté que le chef de l'État peut avoir, et qu'au niveau de la magistrature, qu'on continue à voir ce genre de plaintes, et qu'il lui-même se plaigne même de ceux qu'il lui-même a nommés, parce qu'il l'a dit.
Mais Pierrot, je viens de vous le dire dans mon introduction. J'ai clairement identifié les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que ce bureau est coiffé par les plus hauts responsables des institutions du pouvoir judiciaire. Ce sont eux qui siègent au sein de ces conseils, qui siègent dans ces bureaux. Ce sont eux qui sont responsables. Parce qu'il n'est pas normal, effectivement, que même les nouveaux qui sont venus ne puissent pas être capables de donner l'impulsion, ne fût-ce que l'impulsion, à 30%, à 20%, par rapport aux attentes de la population, moins encore même du chef de l'État. Je vous donne un exemple banal. Parce que c'est vrai qu'il y a un problème de moyens. Mais lorsque le gouvernement de la République, Samalou Kondé Kenge, présente un programme devant l'Assemblée nationale, et quand vous prenez ce programme, le gouvernement dit ceci, que nous allons travailler avec le pouvoir judiciaire en ce qui concerne la lutte contre les antivaleurs, principalement la corruption, les détournements des deniers publics. Nous allons travailler en sorte que le parquet puisse créer en son sein une section spécialisée dans la lutte contre les crimes de corruption, détournement des deniers publics, blanchiment des capitaux. Mais je vous dis, ça fait plus de 6 mois aujourd'hui. Il n'y a rien qui est fait. Parce que, même si c'est vrai que nous disons que le pouvoir judiciaire manque de moyens, est-ce que pour créer, vous êtes un procureur général, pour tout simplement regarder dans l'effectif que vous avez dans votre office, sélectionner 3, 4, 5 magistrats, suivant leurs compétences, leurs capacités dans la gestion de dossiers qui touchent à ce genre de crimes, et en constituer une section spécialisée. Évaluer les coûts, les billets de fonctionnement et transmettre au gouvernement pour dire voilà, vous avez demandé que nous puissions créer ces sections spécialisées. Nous les avons créées, voilà ce qu'il faut en termes des moyens financiers, des moyens logistiques pour leur permettre de travailler. Rien n'est fait jusqu'à ce jour. Et là, il y a un problème de leadership. C'est clair. Voilà pourquoi nous rejoignons les plaintes ou la déception exprimée par le président de la République, nous en partageons. Et nous n'avons pas hésité d'en appeler au président de la République, que ce soit publiquement, verbalement ou par écrit, pour que le président de la République change, remplace ceux qui ne se sont pas montrés aujourd'hui capables, performants dans l'accomplissement de leur mission.
Voilà, vous parlez de changement. Est-ce que le problème, si on peut changer le magistrat, est-ce que c'est le problème de la configuration mentale et du système dans lequel les nouvelles personnes vont pouvoir évoluer?
Ce sont des personnes qui doivent créer les conditions, que ce soit les conditions mentales, psychologiques. Ce sont des hommes et des femmes. Si c'est déjà des personnes qui portent ces valeurs de la justice, de la recherche de la justice, de la prédominance de la justice sur tout, ou de servir plutôt loyalement l'État, je crois que quelle que soit la précarité de leurs moyens, ils peuvent ne fût-ce que commencer par accomplir certaines choses. Vous avez aujourd'hui, tout le monde parle de l'IGF, mais l'IGF n'a pas commencé à avoir les 1 million par mois pour le fonctionnement dès le début. Ils ont d'abord impulsé une nouvelle dynamique de travail. Cela a convaincu aussi leur tutelle, c'est-à-dire leur chef hiérarchique, le président de la République, pour dire, enfin, j'ai des gens qui sont capables de réaliser les objectifs pour lesquels ce service a été créé. Il leur faut maintenant des moyens. C'est tout ce que nous disons toujours aux plus hauts responsables de la justice. Commencez par impulser cette idée qu'on les sente, ne fût-ce qu'avec quelques dossiers qui existent, vous donner une dynamique qui va convaincre finalement les plus hautes autorités du pays pour dire si déjà eux-mêmes, ils sont capables de réaliser ce genre de résultats, donc avec des moyens supplémentaires, ils peuvent faire plus et ainsi de permettre au pays d'éradiquer les phénomènes de corruption. Parce que les moyens, il faut les créer. Mais on ne peut pas créer, l'État ne peut pas augmenter ses ressources publiques aussi longtemps que la corruption continue à gangréner toute l'administration, gangréner les régies financières, même si de par les efforts du gouvernement, de l'IGF, de la CNRF et aussi des organisations de la société civile, les responsables des régies financières ont réalisé certaines performances aujourd'hui. Mais vous savez aujourd'hui, quand vous demandez à un Congolais qui ne fait pas, quelle est l'institution qui n'arrive pas à accomplir au moins sa part de responsabilité ou sa partition, on va vous dire que c'est la justice.
C'est tout le monde qui s'est plaint. Voilà. Alors, avant d'écouter d'autres auditeurs, il y a dans ces compagnies qui sont exprimées, il y en a qui sont revenus sur la question de la formation. On insiste que c'est un préalable. Hein. Si on doit recruter, il faut former. Mais est-ce que ceux qui sont déjà là, y a-t-il un programme peut-être permanent ou pas permanent qui permet quand même le renforcement des capacités?
Mais il y a toujours des formations. Il y a même un institut de formation des magistrats, l'UNAFORC, qui est derrière le ministère de la Justice. Concerne les formations, je sais qu'il y a des formations ad hoc, il y a des formations qui sont financées par plusieurs bailleurs de fonds. Ça s'est fait. Il y en a eu beaucoup. Mais maintenant, c'est que c'est comment amener ceux qui sont formés à mettre en pratique de manière concrète et effective les connaissances qu'ils ont acquises de ces formations. C'est là où il y a un écart. Mm-hmm. C'est ça, les fossés, c'est à ce niveau-là. Les gens sont formés, sensibilisés, mais quand ils vont sur terrain, ce qu'ils posent comme acte, c'est totalement différent par rapport aux engagements qu'ils ont pris lors des formations. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi, il y a un problème de leadership.
Alors, maître, quand on écoute les uns et les autres, quand j'ai lu le commentaire des internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, c'est vrai, vous avez raison, tout le monde estime qu'il y a juste encore du travail à faire, mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas eu une évolution positive? Est-ce que le tableau, il est tellement négatif sur le plan de la justice?
Non,
c'est-à-dire... Ou il y a des choses qui ont pu...
Non, il y a
qui ont été faites et qui ont pu montrer l'amélioration.
Non, 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 nous devons mentionner le fait que il y a eu un début de prise de conscience et de certains magistrats. Et ça, je dois vous avouer, nous parlons avec beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, la plupart même lorsqu'ils reçoivent des instructions, des injonctions qui sont illégales, par exemple, dans le cadre des traitements de leur dossier. Beaucoup nous donnent ces informations pour dire, voilà, ce que tel chef me demande, voilà, tel chef voudrait que nous puissions nous dessaisir de tel dossier en matière de lutte contre la corruption et de détournement de puis nous puissions arrêter parce que il a été contacté par l'une des parties. Donc, cette prise de conscience-là, les gens qui commencent à s'exprimer, même s'ils le font encore sous le sceau de la confidentialité, c'est pour aussi leur protection. Je crois que c'est déjà un bon démarrage. Et moi, j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, si les chefs de l'État, avec les gouvernements, arrivaient dans le cadre même de ces cadres de concertation, à mettre en place ne fût-ce qu'une commission d'enquête, beaucoup de magistrats vont s'exprimer. Lorsqu'ils vont avoir des garanties, ils vont s'exprimer. Et d'ailleurs, on ne peut pas statuer si on ne fait pas parler aussi les autres magistrats. Parce qu'il ne faut pas se limiter seulement au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut faire parler les magistrats qui travaillent au niveau des tripés, ceux qui sont dans des provinces, ceux qui sont dans des zones en conflit, qu'ils expriment leurs besoins, qu'ils disent aussi ce qui doit être fait pour qu'ils puissent enfin travailler pour le bien de la nation, c'est-à-dire qu'ils combattent effectivement la corruption et le détournement des deniers publics, qu'ils arrivent à combattre aussi la corruption au sein même du pouvoir judiciaire. Parce qu'on ne peut pas être capable de combattre le détournement des deniers publics, la corruption dans l'administration, dans les régimes financiers, si déjà au sein du pouvoir judiciaire,
On n'est pas capable de se défaire.
De alors, cette corruption.
On va écouter Patrick qui est à Kisangani, Emmanuel est à Bukavu, Emina plutôt est à Bukavu et Martin est à Kalemie. Patrick, merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Vous êtes à Kisangani. Bonjour, Patrick.
Oui, bonjour, bonjour. Merci de nous avoir associés à ces débats citoyens.
On vous écoute, Patrick.
Oui, voilà, nous disions que l'initiative prise par le chef de l'État est une très bonne chose. Dans la mesure où cela va permettre de rendre le travail, en tout cas très facile, aux hommes de la justice. Mais il faudrait que les dirigeants fassent une sélection objective des magistrats cette fois-là. Et ceux-ci, après avoir été sélectionnés, doivent être formés et soumis par la suite à un test pour retenir des magistrats compétents. Il faudrait exclure de ces opérations toute ingérence politique ou à caractère régionaliste. Et une chose importante à faire, c'est aussi l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats. Ceci passe notamment par la construction des infrastructures de base pour les juridictions ainsi que les maisons d'habitation pour les magistrats dans les contrées où ils seront affectés. Si ces conditions ne sont pas réunies, à mon avis, je pense qu'il ne sert à rien de recruter d'autres magistrats alors que ceux qui sont déjà là ont du mal à exercer leur métier. Et c'est même ça ce qui fait la base de la corruption dans notre pays. Voilà un peu ce que je pense de recrutement de nouveaux magistrats en RDC.
Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir appelé de Kisangani. Emmanuel Emina, plutôt. Emina, vous êtes à Bukavu. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour, Emina.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à l'équipe qui vous accompagne et à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Emina.
Tout en sachant qu'instruire est une chose, mais matérialiser ce qu'on a instruit en est une autre. L'insuffisance sur l'effectif et réduit des magistrats en RDC, mon pays, est due à certaines réalités politiciennes voulant établir une justice sélective et à double vitesse, et non parce qu'on manque de personnes capables de seconder ces organes de la loi. Seulement, à peu près 3000 magistrats sur plus de 80 millions d'habitants. On voudrait que quel type de justice qui vraisemblablement son personnel est très chargé, même s'ils sont des anges. Le recrutement devrait tenir compte de certaines préalables et non une nouvelle heure pour renforcer sa structure capable de couvrir les contraventions et défendre certaines personnes qui demeurent intouchables, prêtes à changer le diamant en pierre. La justice élève la nation, M. Pierrot, parce que nous savons très bien que le Congo, notre pays, et avec la vision du chef de l'État qui avait prôné sur l'état des droits, le premier travail devait être vu sur la condition, sur l'amélioration des conditions de vie des magistrats. Nul ignore les sacrifices, soit le danger que les magistrats sont exposés. Mais nous devons toujours quand même encourager ces personnes. Même les gens ne peuvent pas rendre de la justice comme nos magistrats congolais sont en train de rendre. D'abord, nous savons qu'il y a déjà des lenteurs. L'effectif réduit pose toujours des lenteurs sur la procédure judiciaire. Il y a même, moi j'ai eu la chance de faire une inspection ici à la prison centrale de Bukavu, M. Kiro. Il faut poser seulement la question à un prisonnier. Il y a quelqu'un qui a été détenu. Il fait 5 ans, 15 ans sans pouvoir comparaître, parce que toujours il y a l'insuffisance du magistrat. Vous pouvez même assister à l'audience. Il y a au moins 10 audiences alignées à l'ordre de ce jour là-bas. Vous voulez que le magistrat travaille comme un homme, une machine ne peut pas travailler comme ça.
Mais alors, ça veut dire que vous estimez, éminent, qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. On a déjà déploré le fait, comme maître nous disait tout à l'heure, notre invité maître Georges Kapiamba, qu'on ait 2200 magistrats. Vous l'avez dit, pour plus de 80 millions d'habitants, c'est impossible. On ne peut pas arriver à administrer la justice dans ces conditions-là. Mais vous êtes revenu encore sur cette question de clientélisme. Alors, en attendant, Martin, vous êtes à Calémie, vous gardez la ligne, on revient à vous, maître Georges Kapiamba, parce que les auditeurs sont revenus plusieurs fois sur la question de la géopolitique. Je pense que dans les prochains jours, on attend peut-être des nouvelles nominations, et vous militez effectivement pour ce genre de choses. Est-ce qu'il arrive que les nominations de magistrats puissent aussi avoir cette connotation de la géopolitique?
Non, nous savons tous, nous avons des éléments. Nous avons monitoré, nous avons réuni beaucoup d'éléments qui démontre qu'à son temps, durant le régime passé, les admissions ou les recrutements étaient plus fondés sur les critères, soit d'ordre tribal, ethnique ou politique. Donc, on ne tenait pas compte des conditions objectives, c'est-à-dire les conditions qui sont prévues par la loi. Et donc, ça doit cesser. J'espère que les cadres de concertation, lorsque ces membres pourront travailler, et nous, la CAGE, nous allons préparer un document que nous allons leur faire parvenir, ils mettront l'accent sur cet élément pour qu'à l'avenir, lorsqu'il devra y avoir des recrutements, soit pour les nouveaux magistrats, que ce soit au niveau du pouvoir judiciaire, les autres cours et tribunaux et offices, ou au niveau de la Cour constitutionnelle pour les autres, il faudrait qu'on veille pour faire respecter l'égalité des chances. Il ne faudrait pas qu'on recrute les gens en se fondant tout simplement sur les critères
d'ordre tribal. Mais quand on évoque cette question d'ordre, que ce soit tribal politique, n'est-ce pas là pour les politiques, le promis ou les nommés, en fait, ils constituent un bouclier, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Voilà, nous devons combattre parce que c'est une antivaleur, c'est de la corruption. Parce que ces hommes et ces femmes qui vont être recrutés devront être au service de la lutte, du combat contre la corruption. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui est admis ou engagé, recruté par le processus de corruption puisse devenir un combattant de la corruption? Il ne pourra pas le faire parce que lui-même sait qu'il se retrouve là par les jeux de la corruption, ou parce qu'il y a eu trafic d'influence. Il a été recommandé. Voilà pourquoi il faudrait que, à la prochaine fois, que tous nous soyons mobilisé. Le président de la République, lors de l'ouverture des travaux des états généraux sur la presse, il a appelé publiquement, formellement, les médias à travailler pour dénoncer ce genre d'antivaleurs. Et nous, les ONG, nous le faisons déjà. C'est à nous de veiller, de travailler, surveiller tous les processus. Lorsque nous sommes informés de ce genre de tentatives, nous les dénonçons.
Et d'ailleurs, on se rappellera que le chef de l'État l'a dit plusieurs fois. Il a même dit dans une interview, il a insisté pour dire au juge, s'il y a un juge qui reçoit un coup de fil ou une injonction de quelqu'un,
il faut qu'il arrête celui qui l'appelle ou celui qui l'arrête.
Il a donné l'autorisation au juge pour dire, il faut arrêter. Si quelqu'un vous dit, je suis de la présidence et je vous donne l'ordre, il faut l'arrêter.
Voilà.
Mais cela n'a pas suivi, alors qu'il y a toujours des plaintes, on estime qu'il y a des injonctions qui viennent des officines politiques.
Non, c'est-à-dire la vérité, c'est quoi? Nous devons nous le dire, parce que nous analysons ces faits. Il y a un groupe de nos compatriotes, hommes et femmes, qui sont au sein du pouvoir judiciaire, qui se nourrissent de ces antivaleurs, qui les entretiennent, qui ne sont pas prêts à les combattre. C'est ça le problème. Ce sont ces gens-là qui doivent être identifiés et sanctionnés. Et pour que cela arrive, il faut un leadership fort, qui est d'abord lui-même porté par les soucis de réaliser ce combat du président de la République. Mais s'ils ne le font pas, et si par hasard ces injonctions-là passent par eux, ou ça commence par eux pour demander à tel président du tribunal de paix pour dire, dans tel dossier, donner raison à X et Y. Donc, ils interfèrent de cette manière-là en fonction des offres ou de promesses qu'eux-mêmes ont reçues des partis. À ce moment-là,
ça va être difficile
pour que la justice accomplisse ses missions constitutionnelles.
Alors, on va écouter Martin. Martin, vous êtes avec nous. Vous nous appelez des Calémies. Bonjour, Martin.
Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour à l'invité. Je salue également en passant tous les auditeurs de la radio au Capi qui nous suivent en ce net moment.
On vous écoute, Martin.
Bon, l'idée de renforcer l'effectif des magistrats est vraiment salutaire, mais cela demande beaucoup de... Je disais, l'idée de renforcer les magistrats est vraiment salutaire, mais cela demande beaucoup de préalables, parce que c'est un processus très important qui peut nous permettre d'offrir à la République de très bons magistrats. Parmi les préalables, moi je les ai scindés en trois catégories.
Allez-y rapidement.
J'ai voulu parler de l'inclusivité du processus, de l'éthique ministérielle des dossiers de candidature et de l'objectivité. Parlant du point 1 relatif à l'inclusivité, moi je pense qu'il serait mieux d'accorder la chance à tous les compatriotes remplissant les critères de bien vouloir participer à ces concours sans rencontrer beaucoup de difficultés. Par exemple, organiser la réception des candidatures au niveau de chaque province et la cour d'appel ou soit le parquet général près chaque cour d'appel puissent réceptionner les dossiers des candidatures afin de permettre à tous les compatriotes qui vivent dans les Congo profonds de participer à ce concours. Le dernier point est relatif à l'équipe ministérielle des dossiers. Vous êtes sans ignorer que dans un passé très récent, on a observé la révocation de plusieurs magistrats au motif que certains n'étaient pas juristes et d'autres étaient des juristes incomplets. Donc, il y avait des économistes, il y avait ceux-là qui n'avaient que des diplômes du premier cycle. Et ces gens-là ont rendu des décisions, ils ont arrêté les gens. Vous pouvez imaginer les dégâts que cela a causé à la République. C'est vraiment quelque chose à ne pas minimiser pour ce concours, parce que les dossiers doivent être étudiés par une commission indépendante qui va devoir nous proposer des bons candidats qui pourront aider la République dans les processus de l'instauration de l'État des droits, parce que la justice est le socle même du développement d'un État. Troisièmement, nous avons parlé de l'objectivité. Que ce processus ne soit pas une occasion pour certains politiciens de recruter, au fait, de donner de l'emploi à leurs militants. C'est la commission qui sera chargée de ces processus soit indépendante, qu'il n'y ait pas des interférences politiciennes.
Oui, merci.
Et donc, les choses doivent être faites voilà. en toute indépendance.
Merci, merci beaucoup,
pour
Martin.
Pour permettre à la République d'avoir des très bons magistrats.
Merci beaucoup, Martin. Hein, vous l'avez dit, il y a même sur notre page Facebook un internaute qui a été intervenu pour dire, mais pour, comment peut-on donner à ceux qui sont accusés encore la possibilité de pouvoir recruter? Pour vous, vous estimez que ce n'est pas une occasion pour les partis politiques de donner de l'emploi à leurs militants. On revient à vous, maître Georges Kapiamba, parce qu'on doit conclure cet échange. On a suivi les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive?
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nous rappelons que le pouvoir judiciaire est l'un des pouvoirs, des trois pouvoirs qui sont consacrés par la Constitution de notre pays. Mmh. Les magistrats participent à l'exercice du pouvoir. Et par conséquent, comme la Constitution le dit, lorsqu'il participe à cet exercice du pouvoir, il doit le faire conformément aux lois de la République parce qu'il a la mission de protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Mais il ne peut pas réaliser cette noble mission s'il n'arrive pas lui-même à se défaire des antivaleurs telles que la corruption et le tribalisme, népotisme et tous les autres. Alors, parce qu'il doit être mis aussi dans de bonnes conditions, comme la Constitution elle-même déjà l'a prévu, a dit, pour permettre à ces magistrats d'accomplir cette mission, il y a aussi un environnement qu'il faut créer. Qui doit les créer? C'est le gouvernement et le conseil supérieur. C'est de travailler pour que le pouvoir judiciaire ait un budget conséquent, devant lui permettre d'assurer les frais de fonctionnement, des rémunérations convenables, mais aussi couvrir, par exemple, les missions de l'itinérance, des chambres foraines. Mmh. Donc aujourd'hui, moi, je vous dis sincèrement, avec ce que nous avons, nous pouvons, s'ils ont les moyens, ils peuvent d'abord, dans un premier temps, couvrir les différentes zones, merci, organiser des chambres foraines, en attendant qu'on puisse définir de nouvelles règles pour recruter les autres. Sans cela, on va recruter les nouveaux et nous allons avoir les mêmes résultats négatifs et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, comme aujourd'hui.
Merci beaucoup, maître Georges Kapiamba. Merci d'avoir commenté ces sujets avec les auditeurs de Radio Kapi. Je rappelle encore que vous êtes le président de l'ONG Action Congolaise pour l'accès à la justice. Merci à Bob Landou qui était à la mise en onde et la réalisation de ce magazine que vous allez réécouter sur www.radiocapi.net. Mais nous disons aussi que le débat se tient également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Quant à moi, Pierrot Lamegi, je vous retrouve demain pour un autre numéro de Paroles aux Auditeurs. Merci de votre fidélité. Au revoir. Thank you.